Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Peut-être que vous avez déjà remarqué, mais chaque arrondissement de Montréal a une politique en accessibilité universelle. Ça veut dire que cet arrondissement-là doit s'engager dans des actions concrètes pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées. Donc, dans les arrondissements chouchous de Montréal, il y a entre autres l'arrondissement de Verdun qui se démarque et qui a choisi de donner la voix à une citoyenne pour bien faire comprendre les besoins des personnes en situation de handicap. Donc, on la reçoit, c'est Monique Trudel. On apprivoise aussi deux bêtes de la philanthropie, le don majeur avec notre chroniqueuse Jacinthe Roy et le legs testamentaire avec la directrice générale de Vues et Voix, Marjorie Théodore. On fera aussi le tour de plusieurs groupes de défense de droits au cours des prochaines semaines, ailleurs qu'à Montréal, s'il vous plaît, et on lance le bal avec Simon April du Cap-Vie à Québec. Dans un instant, savez-vous que les camps d'été doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap? Ben voilà, je vous l'apprends. On en discute davantage avec Joanne Magloire de la Commission des droits de la personne. Dans un instant, sur Canal M. On est un peu en avance, mais à tous les mois de mai ou avril environ, si vous êtes un parent comme moi, vous regardez la disponibilité des camps d'été offerts dans votre secteur. C'est pas toujours facile, mais savez-vous que si votre enfant a des besoins particuliers, les camps doivent considérer son inscription. Donc, on débroussaille tout ça avec Mme Joanne Magloire, agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. C'est long. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Mme Magloire. Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Donc, pour les gens qui nous écoutent, et comme je me suis enfargé allègrement presque dans la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, rappelez-nous, qu'est-ce que vous faites comme commission?
Oui. En fait, le rôle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour mandat, justement, d'assurer, veiller à la promotion et au respect de la Charte des droits et libertés de la personne. Mm-hmm. Elle a aussi un mandat au niveau de veiller à la loi sur la protection de la jeunesse, okay. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ainsi que la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics.
C'est beaucoup de jobs, mais vous avez nommé cette charte-là des droits et libertés. Mm-hmm. Il faut aller plus loin que la faire appliquer. Il faut en parler aussi. Hein?
Exactement.
Et donc, c'est un peu votre mandat, si je comprends bien, comme agente d'éducation.
Oui, tout à fait. En faire la promotion, former les gens, sensibiliser les gens. Et ça peut être le public ainsi que les organismes. Et c'est très diversifié, notre mandat, là, justement, au niveau de l'éducation-coopération.
Mm-hmm. Vous pouvez même vous rendre dans les écoles, si je comprends bien?
Oui, tout à fait. Oui.
Bon. Alors, prenez des notes à la maison. Vous allez voir, Mme Lagloire est non seulement très renseignée, mais une super bonne formatrice des droits. Vous pouvez même la convier parfois. Enfin, je lance la plug déjà.
Oui. Et sachez que nos services sont gratuits également.
Bon, merci de la précision. Donc, d'entrée de jeu, les camps de jour sont-ils globalement accessibles aux enfants à besoins particuliers au Québec?
Bien, c'est une bonne question. Je pourrais dire de façon générale, oui. Et ce qui est merveilleux avec les camps de jour, c'est qu'on a vu aussi la progression au fil des années. Alors, on est très contents de ça. Ils sont de plus en plus sensibilisés à la question et à leurs obligations. Mm-hmm. Donc, c'est très bien à ce niveau-là.
Si je comprends bien, en fait, maintenant, ça a peut-être progressé, mais il y a une jurisprudence, hein, c'est-à-dire qu'il y a un cas exemplaire qui a marqué la loi ou en fait les obligations des camps. Oui. En fait, c'était la municipalité des cantons unis de Stoneham et Tewkesbury qui a été sommée d'admettre un enfant autiste il y a quelques années déjà. Donc, parlez-nous de ce cas qui a un peu changé les choses.
En fait, exactement, c'est en septembre 2011 où le Tribunal des droits de la personne, justement, qui a ordonné à la municipalité de Stoneham de cesser d'exclure du camp de jour régulier les enfants qui présentent des besoins particuliers en les orientant de façon automatique là, vers les camps spécialisés.
OK.
Donc, la municipalité, dans ce cas-là, a été justement condamnée à verser 16 000 $ à la famille là, de la jeune fille qui présentait une déficience intellectuelle légère de mémoire et un trouble d'autisme léger.
OK. Donc, ça fait force un peu comment je pourrais dire, ça encourage les municipalités à être inclusifs dans leur plan d'été, c'est ça?
Oui. Puis ce qui est bien dans ce jugement-là, qui est vraiment une première au Québec, c'est on rappelait aux camps leur obligation, oui, d'accommoder, mais aussi de bien faire une évaluation des besoins.
Oui.
De pas agir de façon systématique, mais de bien faire l'évaluation des besoins des élèves ou des enfants qui ont des particularités ou des besoins particuliers.
Donc, vous le dites, cette obligation qu'ont les camps de jour, c'est pas nécessairement d'être accessible à tout prix. Il faut qu'à l'entrée, on ne refuse pas un enfant qui présente des limitations fonctionnelles ou des besoins particuliers, puis qu'on évalue avec lui ses besoins. C'est un peu ça la procédure encouragée.
C'est exactement ça. Donc, faire une bonne évaluation des besoins, puis aussi procéder cas par cas. Donc, de pas prendre une situation par rapport à un handicap et mettre en place des façons de faire ou des pratiques qu'on attribue ou qu'on met en place pour différents types de handicaps, mais bien faire l'évaluation cas par cas des enfants qui ont des besoins particuliers.
Il y a deux mots-clés importants dans cette manière de régler, de gérer chacune des situations qui se présentent à nous. C'est des mots qui font peur. Hein? Des fois, les gens, quand ils les entendent, ça fait peur. Mais vous êtes là pour nous apaiser un peu.
Démystifier,
exactement. Donc, les gros mots, c'est accommodement raisonnable et contrainte excessive. C'est dans le fond les deux paramètres qu'on doit considérer pour rendre accessible son cancer. Est-ce que c'est ça?
Oui, effectivement. En fait, les accommodements, c'est une obligation juridique qui découle de l'article 10, donc le droit à l'égalité, qui demande au camp, qu'est-ce qu'elle demande cette obligation juridique finalement? Elle demande à ce que les camps essaient de trouver des solutions, soient proactifs avec des fois les parents, les enfants quand c'est possible de le faire, et dans l'évaluation, dans la demande justement de ce qu'ils auront besoin comme accommodement, essaient de trouver des solutions. Donc, c'est une obligation qu'on dit de moyens et non de résultats. Donc, c'est d'essayer de trouver des solutions ensemble. Et des fois, on ne trouve pas de solution, donc on arrive à une contrainte excessive. Et là, on demande au camp de justement documenter cette contrainte excessive. En fait, il y a des facteurs là, qui viennent baliser un peu cette contrainte. Donc, par exemple, au niveau financier,
ben oui,
les ressources financières,
là-bas.
Exactement,
oui.
Tout à fait. Deuxième, ben, en fait, c'est l'organisation. Donc, on ne demande pas de dénaturer le camp pour justement par rapport à une demande d'accommodement.
Ouais. Donc, c'est sûr que si on fait un camp aventure extrême, ça se peut que ça soit malheureusement jamais accessible pour une personne qui est en fauteuil.
Bien, ça se peut. Il va falloir que justement, peut-être qu'on aura essayé des solutions A, B, C, puis qu'on arrivera à une contrainte, effectivement, à cause de la nature même du camp. Donc oui, c'est une possibilité. Il va falloir l'évaluer. Et le troisième élément, c'est le droit d'autrui. Est-ce que ça vient empiéter sur un droit d'un autre enfant ou d'un éducateur ou d'un intervenant, etc.
Okay.
Et il y a toujours la notion de sécurité là, qui est là, bien évidemment.
Oui, ben voilà, les droits, c'est tout aussi important que la sécurité pour tout le monde.
Exactement.
Il faut toujours considérer ça. En tout cas, moi, je suis content, je suis très éclairé grâce à comment vous présentez les choses. Et si jamais un parent veut se renseigner davantage, commençons par le parent. Là, c'est sûr qu'on on pourrait s'adresser au camp, mais pensons aux parents là, qui vont avoir des camps à trouver bientôt. Je pense entre autres à notre régisseur là, qui me regarde, qui va avoir certainement des camps à trouver bientôt. Donc, où on se renseigne?
En fait, je vous invite à aller voir sur notre site web, donc à www.cdpdj.qc.ca. Donc, il y a vraiment toute l'information par rapport aux accommodements raisonnables, à la contrainte excessive. Vraiment, il y a beaucoup d'informations pour mieux comprendre. Il y a les jugements aussi qu'on a mis des liens intéressants pour les parents, donc pour mieux s'outiller, mieux comprendre les droits, finalement, de leurs enfants. Donc ça, c'est une première chose. Ils peuvent toujours appeler à la commission s'ils ont des questions.
Exactement. Vous prenez encore les téléphones. Même à l'heure actuelle, vous répondez avec vos voix.
Oui.
C'est magnifique.
C'est encore possible à la commission de faire ça.
Merci beaucoup. Donc, on rappelle, évidemment, c'est le cdpdj.qc.ca. Ça, c'est si on préfère la version web.
Exactement.
Puis pour les gens qui nous écoutent, là, qui recherchent parfois avec toutes sortes de moyens les sites web, je veux juste préciser qu'on repère la rubrique « Droits de la personne », ensuite la rubrique « Responsabilité des employeurs » et on trouve l'obligation d'accommodement raisonnable. Donc là-dedans, vous allez retrouver le guide « Accommodement raisonnable ». C'est super simple, step
Exactement.
By step, comme disent les Anglais. Donc c'est ça. Sinon,
Exactement.
On vous invite.
Et puis c'est justement ce que j'allais justement je vais faire du pouce parce que vous m'invitez là-dessus sur le guide. On a un beau guide virtuel qui est vraiment avec toutes les étapes d'une demande d'accommodement. Ce guide a été fait justement pour les décideurs, les gestionnaires justement qui gèrent les camps. Mais je pense que les parents peuvent justement y trouver leur compte là, en regardant justement pour mieux comprendre les différentes étapes là, d'une demande d'accommodement. Donc je pense que ça peut servir pour les deux.
Ah mais c'est ça. Mais vous venez me donner une métaphore. Le droit, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut aller consulter le droit.
Tout à fait, exactement.
Bon. Ben, écoutez, merci beaucoup, Mme Joanne Magloire. Rappelons que vous êtes agente d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Donc, vous pouvez même nous aider à comprendre à des petits groupes là, de 12 ou 15 personnes d'associations, etc., quels sont les droits, c'est ça?
Oui, exactement.
Bon, ben merci au moins d'être passé par la station d'ici là.
Merci de m'avoir invité.
Au plaisir.
Au revoir.
Souvent considéré comme un tabou. Est-ce que je peux oser dire ça? Je ne sais pas, mais je vais le dire parce que c'est ce que j'entends dans le milieu de la philanthropie. Pourtant, ça fait partie de ce qu'on veut laisser à la société avant d'aller faire le dernier voyage. Bon, j'arrête d'être énigmatique, là. Je vous parle, bien sûr, du don testamentaire. Donc, avec nous pour en parler, Marjorie Théodore, qui est directrice générale de Vues et Voix. Bonjour, Marjorie.
Bonjour.
Merci de faire encore quelques pas vers le studio.
Ben oui, ça fait plaisir.
Bon, alors, comme vous le dites souvent de manière précise, bon, Vues et Voix, ça s'adresse à plein de gens, mais on peut vouloir la soutenir aussi, cette station-là, ce service-là, parce qu'une station est une station et un service. Et il y a une des manières de le faire, c'est le legs testamentaire. Donc, j'aimerais, Marjorie Théodore, que vous me dites en quoi ça diffère d'un don régulier, le don testamentaire?
D'accord. Donc, le don régulier, c'est un don que l'on fait, il peut être mensuel, il peut être un don un versement unique. Mm-hmm. Ça, c'est le don régulier. Hein.
Okay.
Dans ça, il y a plusieurs autres types de dons qu'on connaît. Mais par contre, la différence avec le legs testamentaire, puis c'est intéressant dans votre introduction qu'on parle de tabou, parce qu'en réalité, c'est un tabou. Hein. De toute façon, lorsqu'on parle de testament, c'est un tabou. Bon, c'est toujours un secret, c'est dévoilé souvent au décès.
Ouais.
Donc, alors, faire un legs testamentaire, ça prend premièrement une volonté de soutenir une organisation et il faut le faire aussi devant notaire, c'est-à-dire c'est un testament notarié lorsqu'on veut léguer. Et bien sûr, lorsqu'on veut léguer, ben, on prend soin aussi d'abord de soutenir sa famille dans le legs, mais aussi de soutenir une organisation.
Voilà, puis c'est donc, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être un peu de l'un, un peu de l'autre. C'est ça qui est fabuleux. On n'est pas obligé de choisir un seul bénéficiaire.
Non, tout à fait, parce que lorsqu'une organisation reçoit un legs testamentaire, alors on est, ça veut dire le nom de l'organisme est bénéficiaire, mm-hmm. et avec aussi les héritiers. Donc, elle reçoit aussi le testament, comme tout le monde, puis on voit aussi ce qui est laissé aux autres, parce qu'on fait partie aussi de cette volonté-là du décédé, de vouloir que tout le monde en reçoit.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on considère là, d'un point de vue notarial,
oui.
Quand on veut faire un legs testamentaire, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? La famille qu'on veut aussi aider.
Exactement. Puis je veux peut-être juste dire qu'est-ce qui est courant dans le legs testamentaire. Il y a le legs d'une assurance, une police d'assurance. Mm-hmm. Il y a le legs des actions.
Okay.
Et il y a le legs aussi de bâtiments.
Ouais.
Après ça, on retrouve d'autres legs qui sont un peu plus moins communs, mais ceux-là sont communs. Donc, dans le legs d'assurance, c'est-à-dire que moi, je peux décider de prendre une assurance que je paye pour vus et voix à mon décès.
Ah oui.
Donc, vus et voix est l'héritier, mais pendant mon vivant, je paye les cotisations de cette assurance-là. Et j'ai reçu.
Ah oui, c'est ça qu'il faut dire. Parce que donc, de notre vivant,
oui.
On a un reçu pour fin d'impôt.
Pour chaque paiement.
Quand on
mensuel.
Donne à chaque fois un paiement d'assurance.
Tout
okay,
à fait,
on comprend
tout à
bien.
Fait. Et on devient le bénéficiaire à ce moment-là.
Mais pour les autres legs, est-ce qu'on a un reçu d'impôt aussi?
Tout à fait. Le legs d'action, mm-hmm. D'ailleurs, vus et voix a bénéficié dernièrement d'un legs d'action d'une personne, malheureusement, d'une bénévole qui est décédée, qui a bien voulu aider l'organisme. Donc, elle a cédé un montant d'action. Alors, à ce moment-là, l'organisme, on a reçu devant notaire, avec tous les autres héritiers, le testament disant que, bon, nous avons une partie. Et ces actions-là sont transférées, bien sûr, après paiement des impôts et tout ça, parce
ouais.
que c'est quand même long aussi, hein, lorsque le décès survient. Mm-hmm. Donc, pour séparer
ouais,
tout
pour
ça.
Pour être sûr que les droits de tous sont respectés, puis la famille aussi.
Exactement.
Doit bien entendre les obligations puis les volontés de la personne qui parle.
Tout à fait. Mm-hmm. Puis ce que je voulais aussi revenir qui est intéressant, parce que lorsqu'on parle, il y a legs testamentaires, mais il y a ce qu'on appelle les dons planifiés.
Oui.
Alors, c'est parce qu'on planifie le don. Ça veut dire que quelqu'un aussi qui dirait que, vous prenez un montant par mois sur ma carte de crédit ou que je vous le donne, ça fait partie aussi des dons planifiés.
Okay.
Il peut se faire il se fait du temps des vivants, mais il rentre dans la planification des dons. Mmh. Donc, alors, c'est un gros concept. Il faut mettre un programme sur pied, bien sûr. Vus et voix à son programme. Donc, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à faire un don planifié à vus et voix, un legs testamentaire, donc, il appelle, c'est Mme Yvonne Sénéchal qui okay. s'en occupe. Donc, on discute avec la personne, puis on regarde un peu qu'est-ce que la personne veut léguer à l'organisme. Mm-hmm. Et ensuite, c'est vraiment à la discrétion. La personne ensuite va rencontrer son notaire pour dire que, je vais léguer soit une police d'assurance, soit des actions, soit aussi un bâtiment à vues et voix, etc. Mm. Après, ça reste en toute discrétion. Mais on sait, on a bien noté que cette personne nous a confirmé que le nom de vues et voix est couché sur son testament.
OK. Donc, il y a effectivement une procédure. On peut prendre notre temps pour bien réfléchir à ça. Le planifier, hein, c'est
le
ça
planifier.
L'esprit du
Exactement.
Don planifié.
Tout à fait.
Il est possible d'ailleurs d'en savoir plus, de rejoindre Mme Sénéchal qui est responsable ici à Vues et Voix,
oui.
de rencontrer les personnes pour parler don planifié. Donc, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées sur vuesetvoix.com.
Tout à fait.
Donc, vuesetvoix au pluriel.com. Il existe aussi un organisme dont Vues et Voix est membre qui nous informe sur toute la palette de ces dons planifiés. Ça s'appelle Un héritage à partager, c'est bien
oui.
ça?
Oui, tout à fait. C'est là depuis quelques années et mm-hmm. ça regroupe les organismes qui veulent en faire partie.
Okay.
Donc, alors, ça veut dire que si vous allez sur le site d'Un héritage à partager, vous allez trouver les noms d'organismes, aussi celui de Vues et Voix.
Okay.
Et puis, c'est sûr que lorsqu'il y a le don, ils ont une partie qui revient, mais c'est toujours plus de visibilité, hein, plus on est connu
ouais.
et les gens peuvent donner selon la cause qu'ils désirent.
Bien voilà, parce que les gens ne savent pas toujours qu'il existe un service pour faire entendre les livres à tous ceux et celles qui ne pourraient pas autrement. Donc, on choisit la cause, c'est un peu ça, à quoi sert notre legs, c'est de soutenir ce en quoi on croit.
Ce en quoi on croit. Dans le legs testamentaire, il y a aussi le fonds de dotation, le fonds de dotation. Oui. Ça veut dire que c'est un montant particulier en argent que la personne dédie. Alors, ça pourrait être un montant pour uniquement produire des livres. Donc, ça, c'est le don des
livres. On peut dédier, exactement. Donc, l'argent qu'on lègue, on peut la dédier à des activités spécifiques
Exactement.
De l'organisme.
Tout à fait. Et puis, on est obligé de le suivre, c'est le legs testamentaire.
Bien sûr.
Et voilà.
Très content d'avoir entendu tout ça, comprendre un peu mieux ce qu'est le legs testamentaire et les dons planifiés. Donc, merci beaucoup, Marjorie Théodore, directrice générale de Vues et Voix.
Bien, merci à toi, Benoît.
On dit toujours qu'il n'y a pas de petits dons. Bon, on entend ça souvent. C'est le cœur qui doit parler, nous dit-on. Mais qu'arrive-t-il quand on est un organisme et qu'on doit acheter une nouvelle maison pour offrir ses services ou même qu'on doit assurer la pérennité d'un orchestre, professionnel à long terme? Bon, enfin, toutes ces choses-là nécessitent beaucoup plus de ressources. Et c'est pour ça qu'on invite Jacinthe Roy, directrice générale de la PGP, pour nous expliquer quel genre de dons on doit demander dans ce temps-là. Bonjour Jacinthe Roy.
Bonjour Benoît.
Alors, c'est quoi le don qui pourrait nous aider à des acquisitions plus grandes, à des activités qui coûtent un peu plus d'argent?
Bien, on parle alors de dons majeurs.
Ah ah!
Oui, alors aller chercher des plus gros dons qu'on va aller chercher habituellement dans nos campagnes annuelles. Benoît, vous vous rappelez, on a parlé beaucoup d'ambassadeurs, de campagnes personne à personne, mm-hmm. d'activités de financement, où là, on va aller chercher vraiment la pépinière de nos donateurs. Mm-hmm. Et quand on va rentrer dans une campagne qui est un peu plus majeure, plus importante en termes d'objectifs, on va se dire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec cette pépinière de donateurs-là pour les amener plus loin?
Donc, on a effectivement un gros potentiel de donateurs qui peuvent consentir des montants importants. Mmh. Comment on arrive à solliciter ces gros dons-là? Est-ce qu'il faut être vendeur?
Oui, bien, en fait, on compare souvent le don majeur et même, en fait, les activités de collecte de fonds annuelles à la vente. Je m'inspire aussi pour ma chronique d'aujourd'hui. En fait, j'ai reçu, en toute honnêteté, une infolettre là, que j'aime beaucoup, qui est de Writers Group.
Okay.
C'est en anglais, donc je voulais la partager avec le plus grand nombre de personnes aujourd'hui en français.
Ah
et,
oui, merci.
Je pense que je vais la partager aussi sur votre site web, sans aucun doute. Et dans les dernières infolettes, on comparait beaucoup, alors c'est ça, les compétences qu'on a besoin dans la vente, vente de produits, et celles qu'on a besoin en don majeur aussi. Donc, on identifie des compétences qu'on peut développer et des compétences qu'on ne peut pas développer, donc qu'on a en nous.
Ah, donc c'est pas tous les profils de gens qui pourraient solliciter des dons majeurs, c'est ce que vous pensez?
Exactement, okay. Exactement. Donc, ce qu'on dit dans les compétences qu'on peut développer qui viennent de la vente et puis qu'on s'approprie en don majeur, en fait, bien, comme je vous disais tantôt, on part avant de partir en campagne majeure puis de solliciter à droite, à gauche, on part de ce qu'on a déjà, nos acquis de donateurs existants.
Okay.
Fait que ça, c'est d'avoir le réflexe de se tourner vers les acquis de l'organisme.
Oui, c'est ça. On commence toujours par ceux qui nous sont acquis. Ils coûtent quand même moins cher que solliciter des gens qui ne nous connaissent pas.
Oui, parce qu'ils ont déjà coûté très cher à les acquérir. Hein? Donc,
bon, voilà.
On veut rentabiliser là, notre investissement. On parle aussi de gestion de temps.
Mm-hmm.
Donc, en don majeur, on est beaucoup aussi dans le relationnel. Hein? Là, on va développer des relations, on apprend à connaître nos donateurs. Donc, il faut se préparer des plans. Donc, quand je vise un donateur, ben, je vais faire mon plan d'approche, mon plan de suivi, mon plan de fidélisation.
Okay.
Donc, ça va être très important de gérer son temps pour développer la relation, pour avoir un sens des affaires.
Ouais.
C'est quoi le sens des affaires? Il faut savoir quels sont les besoins déjà de notre organisme.
Oui. Donc, il faut trouver exactement ce qu'on doit vendre. Excusez-moi
oui.
l'expression, mais c'est ça.
Oui.
Il faut identifier comme il faut ce qu'on doit vendre même.
Oui, parce qu'il va falloir identifier les opportunités de vente pour notre donateur. Donc, et là, quand je parle relationnel, faut, en don majeur, il faut connaître c'est quoi les passions, les intérêts, les besoins du donateur.
Ah, ça va jusque-là?
Oui, parce qu'on va créer des liens.
Uh-huh.
Donc, j'ai des besoins d'organisation, mon donateur a des besoins. Qu'est-ce que je peux lui offrir qui vont répondre à ses aspirations, à ses rêves?
OK. Donc, c'est vraiment une approche hautement personnalisée que ça commande.
Exactement.
Il faut même constituer, est-ce qu'on va jusqu'à constituer un dossier sur les personnes qu'on va approcher?
Oui, puis souvent de là l'importance, quand on parle de base de données, là, trop souvent on se sert dans des organisations de base de données pour émettre des reçus, mais c'est plus que ça. Là, quand on est dans un organisme corporatif, la base de données, c'est un outil de connaissances incroyables sur les clients, mais ça devrait être la même chose. Donc, on emmagasine l'information, les rencontres, les appels, lors des échanges avec les donateurs aussi, qu'est-ce qui est ressorti des conversations. Donc, notre base de données doit aller plus loin là, que la simple gestion de reçus.
Oui, c'est ça. Donc, il faut, comme dirait l'autre, il ne faut pas juste inclure ce qui va sortir, il faut inclure ce qui pourrait rentrer, donc l'argent.
Donc, on a du quantitatif et du qualitatif.
Et du qualitatif aussi, donc il faut connaître, écrire un peu sur l'histoire, les passions, les intérêts. On comprend bien. C'est intimidant pour les gens d'avoir peut-être un aussi gros montant à demander, mais est-ce qu'on peut parfois demander de l'aide si nous, personnellement, on ne se sent pas capable d'approcher un grand donateur?
Bien, en fait, et ça fait partie aussi là, des compétences qu'on n'acquiert pas, qu'on a en soi, et on se dit, est-ce que je suis un bon vendeur au départ. Et ma réflexion m'a amené à répondre à votre question en me disant, oui, on peut aller chercher de l'aide, bien entendu, mais est-ce qu'on est au bon endroit, nous? Donc, en tant qu'avoir, c'est là qu'on va regarder du côté de notre propre personnalité.
Ouais.
Est-ce qu'on est assez curieux pour être dans ce poste-là? Parce que s'il faut savoir connaître les rêves, les espoirs, les besoins de notre donateur, il faut poser des questions.
Ouais. Mais pas juste poser des questions, il faut être sincère dans les échanges aussi.
Oui, bien, il faut être empathique.
Oui, voilà.
C'est la clé. Il faut être intègre. Donc, si on a un employé qui est en collecte de fonds, qui module un peu les faits selon le donateur qu'il rencontre. Donc, et là, je me mets en tête, là, je ne voulais pas citer là, une certaine autre conseillère politique américaine, là, mais tu sais, on peut pas jouer avec des alternative facts.
Oui, c'est ça.
Il faut qu'on soit dans les vrais faits donc, de nos impacts. On peut pas moduler selon la personne à qui on s'adresse.
Puis
c'est transparent.
La pression est encore plus grande avec un grand donateur parce qu'on parle des grands, grands secteurs de notre organisme. Donc, on peut pas mentir sur ce qu'on fait, au fond. Là.
Mais jamais.
Je dis pas qu'il faut mentir, mais quand on entend le vendeur, vous êtes d'accord avec moi, Jacinthe, quand on entend le mot vendeur, c'est un vendeur particulier que le vendeur pour les dons majeurs. Là. C'est un vendeur intègre.
Oui, il le faut toujours.
Okay.
Il faut avoir, et là j'ai encore un anglicisme, mais il faut avoir de la drive. Il faut pas se décourager, il faut être fonceur, parce que pour plusieurs refus, on va avoir un oui.
Okay.
Et ce oui-là, il risque d'être payant.
Ben écoutez, c'est une bonne finale, Jacinthe Roy. Merci d'être avec nous mois après mois. Vous êtes directrice générale de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Merci, Jacinthe.
Au plaisir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Très souvent, entre autres, parce que les médias se trouvent à Montréal ou dans les grands centres, on entend peu les revendications des groupes de défense de droits en région. Et donc, on lance cette série avec un organisme phare de Québec, donc série sur les organismes hors Montréal, une fois pour toutes, le CABVI. Simon April, le responsable de la défense de droits et des communications, est avec nous. Bonjour, Simon April.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va bien. Donc, une fois pour toutes, dites-nous là, s'il faut dire CABVI ou CABVICH pour désigner votre organisation.
Nous, on dit CABVI, mais dans le fond, c'est parce que l'acronyme, ça fait CABVICH, c'est Comité des personnes vivant des situations de handicap.
Donc,
mais on le prononce CAPVI.
Et on identifie clairement qu'on parle aux personnes ou avec les personnes en situation de handicap.
Exactement. Bien, nous, on est surtout en défense de droits des personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant,
oui.
Notre grosse clientèle.
OK. Donc, ouais. Vous êtes un organisme de défense de droits. Vous vous battez surtout pour les personnes qui ont une déficience motrice, oui. Qui se déplacent en fauteuil. C'est quoi vos grands dossiers?
Dans le fond, nous, on est un organisme qui a deux volets.
Mm-hmm.
On est un organisme de défense de droits et aussi de soutien à domicile.
Okay.
Donc, on a les deux volets à défendre aussi. Mais ça revient un peu les sujets là, un peu partout, comme dans la province, le transport adapté, on a les logements sociaux et les logements non sociaux. On a l'accessibilité des commerces ou l'accessibilité des bâtiments. Je pourrais vous en donner de même, mais on a des dossiers un peu sporadiques aussi. Là, qui
arrivent, le travail aussi, c'est important, puis de manière générale, le soutien à domicile.
Oui, exactement. Le soutien à domicile, surtout parce que dans le soutien à domicile, nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est l'autonomie des personnes.
Mm-hmm.
Donc, nous, on y va avec le chèque emploi-service, qu'est-ce que ça s'appelle. Donc, on donne des heures à la personne. La personne se trouve des travailleurs. Nous, on trouve des travailleurs pour les gens.
Okay.
On les met en communication, puis ça leur permet de pouvoir rester à domicile plus longtemps.
OK. Donc, ça, c'est peut-être l'aspect un peu plus service de votre organisation.
Exactement.
Mais vous n'êtes pas là pour embaucher des préposés ou des personnes. Là. Vous êtes là pour faire le lien entre la personne et la personne préposée.
Ben exactement. Dans le fond, nous, ce qu'on est, c'est que c'est une banque de référence.
Okay.
Donc, on passe les entrevues aux gens. Les gens viennent ici. Donc, quand quelqu'un fait une demande pour avoir du soutien à domicile, nous, on a une banque de personnes. On fournit deux ou trois noms selon les régions dans la ville de Québec.
Mm-hmm.
Puis, on fait des matchs là, là-dedans. Là.
OK. Puis, le chèque emploi-service, pour que les gens comprennent bien à la maison, c'est quelque chose dont on peut tous et toutes se prémunir, hein, c'est ça?
Ben dans le fond, il faut que soit inscrit au CLSC ou au CIUS de ta région.
OK.
Ensuite, on se fait évaluer par un ergothérapeute ou un travailleur social. Selon tes conditions, selon vos besoins, on attribue des heures.
Okay.
Je donne un exemple. Si on veut de l'aide pour le ménage, ça donne, exemple, 2-3 heures par semaine.
OK.
Si on veut pour l'aide pour la nourriture, c'est 8 heures. Puis ça va comme ça, là.
Puis comment vous arrivez à concilier cette partie-là, plutôt service, et toute votre action en défense de droit?
Bien, dans le fond, c'est que nous, on veut que les gens restent à domicile et le plus autonome possible.
Ah, c'est ça, donc, c'est ça l'objectif, oui.
Exactement. Mm-hmm. Donc, en défendant leur droit de rester à domicile et de rester autonome dans la vie active, le BRAD sert beaucoup à ça. Là.
OK. C'est son petit nom, d'ailleurs, BRAD, hein?
Oui, exactement.
Bon. Parlons maintenant de défense de droit. Donc, vous avez nommé plusieurs enjeux importants, le transport, l'accessibilité des commerces, l'habitation, le travail, le soutien à domicile. C'est quoi l'enjeu important en ce moment, là, peut-être pour la région de Québec ou pour votre organisation?
Dans le fond, là, c'est parce que ça vient sporadiquement. Entre le mois de janvier, le mois de février et même le mois de mars un peu, c'est beaucoup les renouvellements de bail.
OK.
Donc, ce qu'on a comme phénomène depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui viennent de la région autour de Québec.
Mm-hmm.
Je vous donne l'exemple de la Beauce, ou même ça peut aller jusqu'à Rimouski, on a eu des demandes jusqu'à Baie-Comeau, qui veulent partir des régions pour venir s'installer à Québec. Ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire, par où commencer, donc se trouver un logement accessible et est-ce que je peux avoir un logement adapté.
Mm-hmm.
Parce que souvent, ce qu'on trouve, c'est des logements sociaux. Mais des fois, c'est des personnes à la retraite, maintenant à 65 ans, puis ils ont des problèmes de mobilité, puis ils veulent venir vivre à Québec pour se rapprocher de la famille et des services. Puis là-dedans, ben eux autres, ils ont de la misère à se trouver un appartement qui pourrait, exemple, abaisser un comptoir ou qu'il n'y ait pas trop de marche pour rentrer dans l'appartement. Ou, exemple, je voudrais prendre le transport adapté. Comment ça fonctionne?
Ah oui, donc vous expliquez aussi comment accéder aux services, pas juste pour accéder à un logement, mais aussi au transport adapté, puis peut-être au service de soutien à domicile aussi, vous faites ça?
Exactement, ça vient tout comme d'un package deal, qu'on pourrait dire. Mais on fait de l'enseignement aussi, bien, l'enseignement, c'est une parenthèse, là, mais à des travailleurs sociaux, des ergots, qu'eux nous appellent, puis ils ne connaissent pas la démarche pour le faire.
Ah oui, ça vous arrive de conseiller même des gens, des institutions, puis du réseau de la santé?
Fréquemment.
Ah oui, bon. Ceci dit, c'est quand même dans le rayon très défense individuelle. Est-ce que vous faites de la défense collective des droits aussi?
Bien, c'est ça. C'est que nous, à la base, on est en défense collective.
OK.
Mais plus le temps avance, plus on fait du support individuel. Donc, je ne fais pas la démarche pour eux, mais je leur dis la manière de faire et les où aller chercher l'information.
Bon. Autre dossier très important, quand on parle de CAPVI, souvent, on entend parler de l'accessibilité des commerces. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'outils là, pour appuyer autant les personnes que les commerces. Parlez-nous de ce dossier important-là.
Bien, on a commencé en 2015 avec une campagne sur la sensibilisation des commerces accessibles. Mm-hmm. Donc, on a produit un document qui expliquait quels sont les avantages de devenir accessible, la manière de faire, où aller chercher les financements, de quelle manière se rendre accessible, parce que on voit ça souvent, l'accessibilité mal faite. Je vous donne un exemple, une porte automatique qui ouvre en plein milieu d'une rampe. Mm-hmm. L'accessibilité peut être mal faite des fois. Donc, c'est un peu...
Ça peut même être dangereux.
Oui, exactement. Fait que, on fait pas de l'accessibilité. Dans le fond, on nuit à un peu tout le monde. Nous, on a quelqu'un ici qui fait partie de notre CA. Mm-hmm. Il est en entrepreneuriat, dans le fond, dans la mise en accessibilité des commerces.
Okay.
Et des maisons. Donc, lui, il nous conseille aussi.
Qu'est-ce que ça veut dire, entrepreneuriat, dans l'accessibilité des commerces?
Ben, dans le fond, lui, il y a un commerce qui se spécialise dans la mise en activité.
Ah ouais?
Donc, je vous donne un exemple. Tel commerce, mettons un restaurant, dit « je voudrais me rendre accessible ». Donc, lui, il va se déplacer, il va aller voir. Je vais faire OK, ici, il y a trois marches, ça me prendrait une rampe, ça prendrait une toilette accessible, ça prend tant d'espace, la rampe devrait être à tel degré. Puis donc, c'est plus des soutiens techniques là, pour qu'on on veut rendre la vie facile aux commerçants pour se rendre accessible, pour pas qu'ils aient à chercher eux-mêmes.
OK. Parce que c'est sûr que là, on est dans la logique de l'adaptation. Hein. On prend déjà des commerces qui sont inaccessibles, on essaie d'améliorer leur accessibilité. Est-ce que vous défendez l'accessibilité universelle aussi?
Bien, nous, on dit, parce que l'accessibilité universelle, ça représente toutes les formes de handicap. Mm-hmm. Nous, on est, tu sais, je veux pas... on ne se spécialise pas beaucoup dans les personnes aveugles ou les personnes sourdes, mm-hmm. parce que ce n'est pas vraiment notre expertise.
OK.
Donc, on veut pas...
Est-ce que vous travaillez avec eux parfois?
Oui, ça, il n'y a pas de problème. Il y a le RPHV qu'on fait affaire, qui est la même chose que nous, mais pour les personnes à déficience visuelle.
Oui.
Donc, on fait affaire avec eux des fois, là, pour... comme je vais vous donner un exemple, la semaine dernière, il y avait des consultations pour la SAC.
Oui,
les déplacements urbains.
C'est ça, la sécurité routière. Là, c'est la vaste consultation qui est déployée depuis février. Là.
Exactement.
Okay.
Donc, nous, on est allé faire déposer des mémoires et aller faire la consultation publique avec le RPHV. Mm-hmm. Que nous, on avait des demandes comme le temps des traverses ou l'effet sonore. Parce que je vais vous donner un exemple. Si on traverse une rue, qu'il y a beaucoup d'achalandage, les personnes handicapées, des fois, ils regardent à terre pour pas de poigner un trou et tomber. Mm. Donc, nous, on se fie au son pour traverser, ce qui est un peu la même chose pour les personnes aveugles. Donc,
on comprend bien votre action, comment vous fonctionnez aussi pour l'accessibilité des commerces. C'est par ailleurs un enjeu qui existe dans toutes les villes et ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous ne trouvez pas des fois, et c'est une question que je pose à tout le monde en passant, Simon April, est-ce que vous diriez que la défense de droit est trop souvent considérée à Montréal? On en entend beaucoup parler de ce qui se vit à Montréal, mais peu de ce qui se vit ailleurs au Québec?
Bien, il y a aussi le fait que nous, je vais vous donner un exemple, on écoute les radios, pas les radios, mais ben, la radio, oui, et la télé, mettons Radio-Canada ou TVA, puis nous, on a les nouvelles régionales.
Donc, okay.
Nous, on a les nouvelles de Québec. Ce que vous n'avez pas à Montréal,
ouais.
Parce que vous avez les nouvelles régionales de Montréal. C'est peut-être l'effet que ça vous donne, là.
Mais ceci dit, est-ce que vous trouvez quand même que la défense de droits de d'autres organisations, parce que même les regroupements nationaux, très souvent, se trouvent à Montréal. Oui. Quand je dis regroupements nationaux, là, c'est peut-être en défense de droits, des regroupements de groupes qui représentent plein de déficiences ou plein de types de handicaps. En tout cas, bref, ils se retrouvent souvent à Montréal. Vous ne trouvez pas qu'on entend peu ce qui se passe hors Montréal, généralement?
Bien, je ne sais pas si vous n'entendez pas parler. Nous, on entend beaucoup parler de nos sujets, nous, en région, bien, à Québec.
Oui.
Ceci dit, nous, on se considère un peu plus comme une ville que comme une région.
Mm-hmm.
Moi, personnellement, c'est que je viens de la région, je viens du Bas-Saint-Laurent.
Oui.
Ça m'a donné le contraste entre la ville et la région.
Mm-hmm.
Puis mon frère aussi est en fauteuil roulant, donc je peux communiquer avec lui pour savoir c'est quoi les différences ici. Ce que il m'expliquait l'autre jour, c'est que vu que lui a plus accès aux instances,
oui.
comme le maire ou les gens à l'hôtel de ville ou oui. les responsables, c'est plus facile pour lui l'accessibilité. Fait que lui, que le métro ne soit pas accessible à Montréal, ça ne l'intéresse. Bien, ça l'intéresse, oui, mais ouais. c'est pas sa priorité. Lui, sa priorité, c'est ce qui se passe autour de lui. Mmh. Et c'est un peu plus ça que je pense que les personnes handicapées vivent.
Donc, pour être capable de changer les choses, il faut vraiment faire des représentations de la défense de droits au niveau de l'échelon municipal?
Ben moi, je pense que oui.
Mm-hmm.
Pour les commerces, c'est plutôt municipal.
Ouais.
Il y a des dossiers qui se situent un petit peu comme la COFAN au niveau provincial.
Mais donc, pour les gens qui nous écoutent, la COFAN, là, c'est la Confédération des organismes de promotion, des personnes handicapées, du Québec. C'est une confédération qui regroupe toutes sortes de groupes, dont vous et l'Europe 03.
Exactement.
Mm-hmm.
Puis nous, dans le fond, on fait des fois des représentants publics au gouvernement, au Parlement ici, au Québec. Donc, il y a des gens de Québec, il y a des gens de Montréal, il y a des gens d'un peu partout.
Okay.
Donc, on se situe à représenter chacun notre portion du Québec
mm-hmm.
pour pouvoir défendre nos droits. Mais des fois, c'est des questionnements ou des problématiques qui sont généralisées.
Ouais.
Parce qu'un commerce qui n'est pas accessible à Montréal ou qui n'est pas accessible à Québec ou en d'Alba-Saint-Laurent, c'est un commerce qui n'est pas accessible.
Oui, c'est ça. C'est un problème d'accessibilité commerciale, tu sais.
Exactement.
Mais est-ce qu'il y a de l'argent qui doit être consenti? C'est quand même au niveau municipal qu'on décide de ces choses-là.
Oui, mais je pense que chaque municipalité est un peu porteur de son projet.
Oui.
Je donne l'exemple de la ville de Victoriaville, qui est un bel exemple là, d'accessibilité, qui ont mis beaucoup d'argent, beaucoup d'emphase sur l'accessibilité. Leur plan d'action de la ville de Victoriaville est vraiment génial.
Oui. C'est vrai qu'on le cite souvent en exemple. Hein? Puis d'ailleurs, au niveau commercial, je crois que c'est la première ville qui a offert un programme de subvention pour la mise en accessibilité des commerces, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Puis bien là, je ne pourrais pas vous dire si c'est la première ville.
Dans les deux premières.
Oui, exactement.
Ouais.
Mais comme vous, à Montréal, je pense que cette année, vous avez eu un...
Ça vient d'arriver.
Puis nous, on travaille pour ça à Québec parce que présentement, on est en train de faire le plan d'action de la Ville de Québec, mais c'est un peu difficile avec la Ville de Québec, on dirait. Là.
Oh.
L'écoute n'est pas toujours là.
Ben, le message est lancé, Simon April. On va devoir se quitter déjà. Donc, il faut que la municipalité de Québec entende mieux des groupes comme le CAPVIE, comme l'Europe de Québec.
Oui.
On vous a entendu, nous, en tout cas.
Oui, bien, merci beaucoup.
Et aux gens qui veulent en savoir plus sur votre action, on visite le CAB, et là, je vais le dire à l'oral, là, pour que les gens qui ont une déficience auditive, entre autres, le comprennent, cabvish.org, donc CAPVISH.org. Ça, c'est votre site web?
Exactement, puis vous pouvez aller voir qu'on a deux Facebook, un sur l'accessibilité spécifiquement, et un pour le CAPVIE, pour les nouvelles quotidiennes.
Parfait, merci Simon April de CAPVIE.
Ça fait plaisir.
Fixer aux falaises les sentinelles aux abois, souffle sur les braises qui ne se réchauffent pas. Thank you.
L'égalité devant la pomme. Bonjour, ici Martin Forgue, recherchiste et chroniqueur pour Canal M. On le sait, l'omniprésence de la technologie dans nos vies met une pression de plus en plus indue, tant au niveau personnel que professionnel. Et c'est une pression qui peut se ressentir doublement lorsqu'on vit avec des situations particulières, entre autres lorsque nous sommes non-voyants ou malvoyants. Et c'est l'occasion parfaite pour souligner qu'à la fin du mois de janvier dernier, Apple recevait, lors de la 57e édition de l'événement, le prix Louis Braille pour ses efforts visant à créer des fonctions d'accessibilité dans ses produits. Nous ne les nommerons pas nécessairement, vous les connaissez probablement. De toute façon, le chèque de commandite n'est toujours pas rentré. Donc, c'est cet événement qui a été créé en 1957 récompense les personnes et les organisations qui ont contribué de manière importante au nom des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et par la même occasion, c'est M. Jordan Castor, ingénieur lui-même non-voyant de la compagnie, qui a accepté le prix au nom de la société. D'ailleurs, la compagnie qui est située à Cupertino, en Californie, a également reçu un prix en 2015 de la part de la Fondation Helen Keller pour les aveugles pour la création et la mise en œuvre de son application VoiceOver au travers de ses plateformes. Ce qui nous amène à souligner, je vous en parlais en préambule, cette égalité devant la pomme qui est un peu à l'image d'une secte qui nous regarde comme un grand œil, soit d'un œil bienveillant lorsque nous nous y conformons ou d'un œil plus sévère lorsque nous résistons. Ne vous en faites pas, je ne juge pas, je suis moi-même membre à part entière de cette secte technologique qui ne peut que se pâmer devant non seulement l'accessibilité, mais l'efficacité, il faut le dire. Et donc, avec ce prix, on remarque que Apple, telle une église, se donne les moyens de rapailler le plus grand nombre de fidèles possible et il reste à espérer que les autres églises modifieront en conséquence leurs évangiles.
L'arrondissement est cité souvent en exemple, on peut même dire qu'il est devenu in. Il y a aussi ces citoyens et citoyennes qu'on reconnaît souvent. Et il existe un prix ou une reconnaissance de l'arrondissement qui s'appelle les Grands Verdunois. Donc, Mme Nicole Trudel a reçu ce prix-là. Monique Trudel a reçu ce prix-là déjà. Et elle est avec nous. Donc, Monique Trudel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Bien, évidemment, on ne parle pas aujourd'hui que de cette reconnaissance-là, mais ça vous a souvent aidé parce qu'on reconnaît en fait que vous êtes très impliqué dans la communauté.
Oui, oui, c'est ça. Et mon implication est due à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Finalement, au tout début, il y a 30 ans, j'étais participante pour fonder le Centre des femmes.
Ouais.
Et maintenant, je suis participante pour travailler au niveau de l'inclusivité des handicapés. Des personnes handicapées.
Vous l'annoncez presque. En fait, vous avez été nommé membre d'un comité de consultation sur l'accessibilité universelle dans l'arrondissement Verdun. Puis, juste préciser aux gens, vous savez que tous les arrondissements de Montréal se doivent d'adopter un plan en accessibilité universelle, mais en plus, ils ne le font pas tous, mais il est possible d'avoir un comité en accessibilité universelle pour comprendre au quotidien c'est quoi les besoins. Et Verdun est de ces arrondissements-là qui a créé un comité. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Et ce qui est important, ce qui a été démontré aussi, c'est que dans ce plan d'accessibilité, c'est important d'avoir une citoyenne qui s'implique,
voilà.
Une personne qui est élue et une personne fonctionnaire dans la ville au moins, pour qu'il y ait comme une chimie mm-hmm. qui s'implique et que la... Et qu'il y a des choses qui se passent concrètement. Là.
OK, donc c'est vraiment ça la méthode, là, parce que faut savoir qu'il y a des élus dans tous les arrondissements qui ont été nommés comme responsables de l'accessibilité universelle
oui.
ou de la diversité. Et dans ce cas-là, dans le comité, cet élu-là se retrouve
oui.
avec vous pour
oui.
parler d'accessibilité universelle.
Oui, et il est dans toutes les réunions.
OK, mais il n'y a pas seulement un élu pour que ça avance. Hein. Ça prend aussi un
non.
fonctionnaire.
Ça prend.
Pourquoi?
Parce que c'est important, ça donne le suivi, l'historique et les, chaque personne a ses qualités, ses forces.
Ah ben oui, c'est sûr.
Et souvent, le fonctionnaire, la personne qui est fonctionnaire, va parler d'organisation, va mettre les choses en place, mm-hmm. va demander aussi de faire les calendriers, d'aller chercher les informations pour tel sujet.
Ouais.
Et alors que la personne qui est plus du domaine politique va aller chercher les autorisations ou va donner les autorisations.
Ou les votes.
Ouais. Ouais, c'est certain. C'est certain ouais. qu'une personne politique va aller chercher les votes et c'est bien comme ça.
Ouais.
Et c'est bien comme ça.
Mais donc, comment ça se passe dans le comité? En fait, vous regardez le plan d'action de l'arrondissement ou vous amenez les problèmes, trouvez des solutions?
On a travaillé le plan d'action ensemble.
Ah oui?
Oui. Tous les chapitres étaient traités ensemble
mm-hmm.
et discutés. C'est certain que la personne fonctionnaire allait plus loin, nous le lisait, nous le préparait.
Oui.
Mais on le relisait, on le regardait et on ajoutait des points si... Pour nous, c'était déficient.
Ouais.
Ou,
donc, vous validiez, vous bonifiez, vous oui. pouviez changer même des choses?
Oui.
OK.
Oui, un exemple.
Mm-hmm.
Un exemple?
Allons-y pour l'exemple.
Ouais. OK, allons-y pour l'exemple. Pour moi, c'était important qu'une personne handicapée puisse non seulement juste regarder l'activité, mais participer à l'activité.
Ouais.
Alors, dans la ville, la phrase, pour moi, c'était très important que c'est indiqué que la ville nous aide ou supporte les personnes à faire de l'activité physique ou à en supporter. Et ça a été comme une discussion parce que je voulais pas juste qu'on puisse regarder.
Mais c'est important ce que vous dites, Monique Trudel, parce que on pourrait, par exemple, s'assurer que les gens assistent à une pièce de théâtre.
Exact.
Mais qu'en est-il de ces personnes en situation de handicap qui veulent faire du théâtre?
Exactement. Alors, il faut que la scène de théâtre soit accessible.
Voilà.
Et l'autre chose aussi...
Puis les employés, est-ce que vous êtes allé jusque-là?
Les employés, ça a été... C'est vraiment bien dans le sens de... supposons il y a un contrat qui est passé dans la ville de Verdun pour les rues.
Ouais.
Bon, mais moi, je vais vous dire, oui, c'est difficile. Des fois, les chemins sont pas faits parfaits. On commence, puis les employés sont de mieux en mieux ou les contrats sont de mieux en mieux donnés. Mais il y a un accueil et il va toujours avoir une aide pour qu'on puisse circuler. Il n'y aura pas de oh, « qu'est-ce
ouais.
qu'elle fait là? »
Ouais.
Pourquoi elle passe là? Non, non.
Oui, il faut travailler les attitudes.
Exactement.
Ah non, mais c'est important. Mais en fait, je vous parlais, on pourra en discuter une autre fois pour ce qui est de l'espace de travail et son accessibilité. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi sensibiliser le personnel dans leur
oui.
attitude.
Oui.
Écoutez, il nous reste à peu près une minute.
Oui.
Donc, très peu de temps. Ce que je veux dire, c'est que le dernier plan d'action de l'arrondissement Verdun
oui.
a été salué par de nombreux groupes. Leur Applique, notamment. Execo aussi a salué. Est-ce qu'il y a une petite chose qu'il faudra améliorer à Verdun, qu'on leur dise aujourd'hui, puis peut-être une tâche à laquelle vous allez vous consacrer, là?
C'est certain, mais ils sont très collaborants. Bouger Vive est très content d'être là.
Ah, c'est vrai, vous êtes aussi parmi les instigatrices de Bouger Vive, qui est
oui.
un OSBL qui favorise l'activité physique.
Oui, oui,
okay.
oui. Alors, c'est ça. Alors, c'est sûr que plus la ville va pouvoir mettre de l'argent
ouais.
pour aider la ville à être inclusive, mieux ça va se passer.
Alors, Monique Trudel, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il faudrait peut-être un petit peu investir encore plus, mais pour le reste, ça va bien. Il y a de l'écoute, de la collaboration.
Exactement.
Merci, Monique Trudel, pour votre engagement. Merci d'avoir été avec nous aussi.
Merci de m'avoir invité.
Alors, cette émission tire à cette fin. Je le savais que je le dirais une autre fois dans ma vie. Mais donc, pour avoir plus d'informations sur les intervenants, n'oubliez pas que vous pouvez visiter notre site web Accès Libre, qui est repérable sur la page canalm.vuesetvoix.com. Est avec nous Simon April, Marjorie Théodore, Joanne Magloire et aussi Nicole Trudel qui était là. L'équipe, on est content de les avoir parce que l'émission n'existerait pas sans eux. Je pense à Martin Forgue à la recherche, Christiane Campagna aux communications et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'est Benoît Racette qui est avec vous. On se reparle la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, j'espère qu'avec des gens comme Monique Trudel, citoyenne, et peut-être Simon April en défense de droit, on va faire que ça sera véritablement accessible. Vive l'accès libre!